Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
Bonjour à tous, midi 30, ravi de vous retrouver pour le journal de la mi-journée.
Moi, ce que j'aimerais, c'est surtout de la cohérence. Je pense que les Français n'y comprennent plus rien.
Beaucoup d'attentes avant l'intervention d'Emmanuel Macron mardi sur la sortie du confinement, sortie qui sera progressive en 3 étapes jusqu'en janvier. 3 étapes dont les contours se précisent. Nous le verrons avec d'abord la réouverture des petits commerces. La modification de la règle du 1 km est aussi sur la table. 2 millions d'opérations d'examen de patients non-Covid annulées lors de la première vague. Chiffre d'une étude de la Fédération hospitalière de France que nous décryptera Marion Gauthier. La reprise demain du procès des attentats de janvier 2015, suspendu depuis 3 semaines, avec le principal accusé malade qui sera en visioconférence. Inconcevable, vous l'entendrez, pour les avocats. L'actualité sportive avec le 15 de France qui retrouve l'Écosse qui l'a privé de grand chelem. Ce sera cet après-midi à Édimbourg. Et puis, drôle de période de transition aux États-Unis. Donald Trump qui ne reconnaît toujours pas sa défaite. Qu'est-ce qui se joue durant cette période de plus de 2 mois alors que Donald Trump garde tous les pouvoirs? Grand témoin de ce journal, en direct depuis Washington, Robert Malley, ancien conseiller de Bill Clinton et de Barack Obama sur les dossiers internationaux. La météo, il fait froid, avec quand même beaucoup de soleil sur une grande moitié sud, nous dira Valérie Darbon.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Deux jours encore avant qu'Emmanuel Macron ne dise aux Français comment nous allons sortir progressivement du confinement, car il le dit dans le JDD, rien n'est pire que l'incertitude et l'impression d'une morosité sans fin. L'idée cette fois, c'est donc une sortie progressive avec Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui parle de 3 étapes jusqu'en janvier, 3 étapes dont les contours se précisent, Claudia Bertram.
Oui, avec d'abord un assouplissement autour du 1er décembre, puis avant les congés de fin d'année et enfin à partir de janvier 2021. Ce sont les petits commerces et les lieux de culte qui seraient concernés par la première phase avec des protocoles sanitaires stricts et il n'est pas exclu que les petits commerces rouvrent dès le week-end prochain. L'assouplissement des sorties d'1 heure dans un rayon d'1 km est aussi à l'étude et la réouverture des lieux culturels est en discussion mais ce n'est pas tranché. L'enjeu pour la deuxième phase, c'est de voir quels seront les effets des nouvelles dérogations et si l'épidémie ne repart pas à la hausse, explique un conseiller ministériel. Car l'objectif, c'est de desserrer une nouvelle fois l'étau pour qu'on puisse passer Noël en famille. Et puis, la troisième phase pourrait concerner la reprise d'autres activités comme les bars et les restaurants. Mais tout cela dépendra de l'évolution des chiffres de l'épidémie, martèle-t-on au sommet de l'État. C'est pour ça que l'exécutif ne parle pas de déconfinement, car ça lui permet de serrer ou de desserrer la vis en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.
Alors, Claudia, vous disiez que la question de la modification du périmètre de 1 km pour prendre l'air et pas plus d'une heure était sur la table. Et c'est vrai que de plus en plus de passionnés de la nature montent au créneau à coups de pétitions pour que la règle change. Jean-Gabriel Bourgeois.
L'accès à la nature, aujourd'hui, c'est un enjeu de santé publique.
Billy Fernandez est accompagnateur en montagne. Il est à l'origine d'une pétition pour revoir la limitation de déplacement à 1 km de chez soi.
On est le seul pays en Europe à appliquer cette règle des 1 heure 1 km. On ne demande pas qu'il n'y ait plus de règles, on demande qu'elle évolue pour qu'elle permette à chacun de pouvoir accéder à la nature, de pouvoir pratiquer des activités douces dans la nature.
Impossible aujourd'hui de se balader en forêt ou de randonner en montagne, sauf si ces espaces se trouvent à moins d'un kilomètre de son domicile. Une absurdité, reconnaît Martine Cano, présidente de la Fédération française de cyclotourisme.
1 kilomètre d'éloignement, bon, c'est 3 à 4 minutes de vélo. Après, quand on dit un rayon d'1 kilomètre, on peut tourner autour. Mais si vous êtes en ville, le bénéfice est quand même bien moindre que si vous pouvez sortir en campagne.
Des bénéfices pour la santé et pour éviter de déprimer, c'est aussi ce que met en avant Xavier Duvigneau. Installé au bord de l'Atlantique, il préside le comité des surfeurs des Landes.
La mer, c'est bon pour la santé, c'est ce qui nous permet de renforcer nos défenses immunitaires. Moi qui ai des problèmes d'épaule, j'ai un certificat médical qui dit qu'effectivement, j'ai besoin de surfer parce que ça me soulage énormément.
Des citoyens et des élus ont même saisi le Conseil d'État pour que l'accès à la nature soit reconnu comme une liberté fondamentale.
Et notez que cette pétition a déjà recueilli plus de ou près de 200 000 signatures. Beaucoup d'attentes donc avant cette intervention d'Emmanuel Macron. Et déjà ce matin, Arnaud Montebourg sur Europe 1 qui juge la gestion de cette crise.
Ce que j'observe, c'est que nos résultats, à la fois en nombre de personnes qui ont perdu la vie, et en termes de destruction économique, sont désastreux. Surtout après les dégâts du premier confinement et de la première vague, il n'était pas inutile d'apprendre, une fois qu'on avait déconfiné au mois de mai-juin, peut-être de trouver d'autres méthodes que celle qui a consisté à nous reconfiner. Et moi, je n'aurais pas fermé les petits commerces non essentiels. D'abord parce que je ne crois pas qu'on puisse dire qu'ils sont responsables de la propagation du virus. Vous avez des supermarchés, des hypermarchés qui sont bondés, il n'y a aucune mesure, alors que les petites surfaces permettent le contrôle sanitaire et permettent d'organiser la discipline collective des clients dans ces petits commerces. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une réussite? Je ne crois pas.
Voilà le constat sur la gestion de la crise dressé par Arnaud Montebourg ce matin au grand rendez-vous européen, CNews, Les Échos. Bonjour Pascal Hébel.
Bonjour.
Directrice de Pôle Consommation et Entreprise au Crédoc, merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur Europe 1. À l'instant, Arnaud Montebourg parlait de la réouverture des petits commerces. Est-ce que les consommateurs vont, d'après vous, reprendre leurs habitudes ou est-ce que de toute façon, il va rester des traces pour les achats de Noël, des habitudes qu'on a prises pendant le confinement ?
Alors, ce qu'on sait, c'est que de toute façon, même s'il n'y avait pas eu de confinement, les Français auraient moins acheté cette année que l'année dernière. Hein. C'était dans l'histoire de vouloir épargner, en fait. Les gens sont très inquiets, en fait, pour l'année prochaine. 22% de ceux qui sont actifs ont peur de perdre leur emploi. Donc, si je ramène ça à ceux qui sont pas fonctionnaires, c'est un tiers des salariés du privé qui ont peur de perdre leur emploi et c'est 60% des jeunes. Donc, de toute façon, les Français n'ont pas envie de consommer pour consommer. Déjà qu'on a une partie de la population qui ne veut pas aller sur la surconsommation. On a un peu oublié qu'il y avait du boycott sur le Black Friday l'année dernière, avec notamment des grandes enseignes qui disaient « n'allez pas acheter trop ». En fait, hein. Donc il va pas y avoir des achats en plus, même si ça va faciliter les achats. On sait qu'au mois d'octobre, on a fait un mois de 25% plus important que l'année dernière sur certains secteurs comme les achats de jouets. Les Français, ils sont pas idiots. Ils avaient anticipé qu'il y aurait un second confinement. Et donc, les achats de Noël, ils ont déjà été faits en partie. C'est de plus en plus, on commence les achats de Noël tôt. Hein. Ça fait des années que c'est dès début novembre, même aux vacances de la Toussaint. Donc là, il reste que 3 semaines. Les Français attendent surtout de savoir s'ils vont pouvoir être en famille. Mmh. Et si on n'est pas en famille, on fera forcément moins de cadeaux, ce qui est assez logique. Cette question d'offrir des cadeaux était déjà un peu en perte d'habitude, rituel. On avait perdu l'envie de faire des achats à tous les adultes. On achète surtout pour les enfants. Donc les commerces alimentaires, par contre, sont ouverts. Ils ont profité, ils profiteront de l'envie de bien manger. C'est déjà
si effectivement on peut, Pascal Hébel, être nombreux autour de la table. Et ça, c'est une question à laquelle répondra peut-être Emmanuel Macron mardi soir. Une dernière question. Est-ce que le protocole sanitaire qui va être mis en place pour la réouverture de ces petits commerces, justement, c'est-à-dire une jauge à 8 mètres carrés doublée au lieu de 4 mètres carrés, ce qui ne sera d'ailleurs pas évident avec des queues éventuellement à la sortie des magasins, est-ce que ça ne va pas bloquer les achats et pousser les gens peut-être aussi à continuer à aller sur Internet ?
Oui, alors on sait que Internet, ça fait 40% de hausse cette année par rapport à l'année dernière, là, maintenant, là, cette semaine. Donc, bien sûr, les gens sont habitués à acheter sur Internet. Et c'est vrai que même en ce moment, chez les commerçants alimentaires, il y a la queue. Les gens ont pris l'habitude de le faire. Hein. Ils respectent toutes les consignes. Ils se bousculent pas. Donc, ça sera la même chose chez les petits commerçants. Et s'il y a trop de monde, les gens n'iront pas. Et donc, c'est pour ça que la question de faire un Black Friday où tout le monde se bousculerait, c'est pas forcément une bonne idée.
Et c'est pour ça qu'effectivement, ce Black Friday a été reporté au 4 décembre pour que, si jamais les magasins rouvrent le 27 novembre, comme vous le dites, ce ne soit pas la ruée dans les magasins avec un brassage qui serait évidemment préjudiciable. Merci beaucoup Pascal Hébel, directrice du Pôle Consommation et d'entreprise au Crédac, d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1. Alors ce que voulaient absolument éviter cette fois les médecins dans la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus, c'est que des patients non-Covid ne soient pas opérés ou renoncent à se faire soigner. Car comme le montre une étude de la Fédération hospitalière de France, ça avait été le cas lors de la première vague. La fédération qui a même chiffré à 2 millions le nombre d'examens ou d'opérations annulées, Marion Gauthier.
Oui, 2 millions de personnes qui sont aussi des victimes du coronavirus. Leur opération n'était pas considérée comme urgente. Certains ont donc dû attendre en claudiquant une prothèse de la hanche. Les transplantations rénales ont chuté de 80%. Pire encore, les diagnostics du cancer qui ont tardé. Le nombre de coloscopies s'est effondré de près de 90%. Entre le mois de mars et celui de mai. Alors cela représente des pertes de chances considérables pour les patients, s'inquiète Frédéric Valtoux. Le président de la Fédération hospitalière de France note que les traitements repoussés risquent d'être plus lourds, que ce retard sera difficile à rattraper.
Il y a des patients qu'on a mis de côté. Donc il faut avoir la lucidité de le dire. L'été a permis de revenir à des niveaux d'actes chirurgicaux, de diagnostics qui sont ceux habituels. Et comme les moyens sont très comptés à l'hôpital, le rattrapage est très long à porter. Ça, il faut l'avoir en tête. C'est pas parce que l'épidémie va retomber que ça en sera terminé pour notre système de santé. Bien au contraire.
La Fédération hospitalière n'a pas encore le chiffre des patients mis en attente avec la seconde vague. Il devrait être moins élevé parce que les déprogrammations se sont faites plus localement, mais il va forcément augmenter. Cette étude, ajoute Frédéric Valtoux, c'est aussi l'occasion de pointer les failles du système hospitalier.
Merci beaucoup, Marion Gauthier.
Fabienne Lemoyle vous informe sur Europe 1.
12h40 et c'est donc demain que doit reprendre à Paris le procès des attentats de janvier 2015. Procès suspendu depuis 3 semaines parce que le principal accusé est malade, contrôlé positif au Covid-19. Et comme il n'est toujours pas en état de comparaître, c'est à distance, en visioconférence, qu'il va suivre les plaidoiries des avocats qui, aussi bien du côté de la défense que des parties civiles, considèrent que ce n'est pas concevable que ce procès se déroule dans de telles conditions, Justin Morin.
Oui, déshumanisation de la justice, violation inique des droits fondamentaux, une disposition scélérate. Les avocats de ce procès historique sont unanimes ou presque et ils le font savoir dans une tribune publiée dans le journal Le Monde. Le principal accusé qui risque la perpétuité suivra donc les débats. Depuis sa cellule, je cite un passage de la tribune, « contraindre un homme malade qui risque des années de réclusion criminelle à prononcer ses derniers mots seul face à un micro entre quatre murs est indigne de notre état de droit. » La visioconférence pour un accusé, c'est inédit dans l'histoire judiciaire. Daphné Pugliesi, avocate d'un des accusés, dénonce cette triste première.
Un procès d'assises, c'est pas un film qu'on regarde à la télévision. Il faut pouvoir se défendre, il faut pouvoir communiquer avec son avocat. Là, on est en train de nous dire que l'accusé principal a des vomissements et puis il comparaîtra en visio avec la bassine à côté de lui. On va aller jusqu'où ? C'est l'image de la justice que l'on veut avoir ?
La mesure sera au cœur des débats demain matin lors de la reprise du procès. On s'attend à de nombreux recours que la cour d'assises spéciale devra étudier. La disposition autorisée par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti sera valable jusqu'au mois de mars prochain, c'est lié au contexte sanitaire. Mais nombreux sont ceux qui craignent que ce régime d'exception devienne la norme.
Justin Morin du service police-justice d'Europe 1. Et puis, il n'y aura pas de nouveau procès Daval. L'accusé Jonathan Daval, condamné hier à Vesoul à 25 ans de prison, a dit qu'il ne ferait pas appel. L'actualité sportive avec le 15 de France qui se retrouve face à l'équipe qui l'a privé du grand chelem dans le tournoi des 6 nations. L'Écosse sur son terrain à Édimbourg. Coup d'envoi 16h15. Et forcément, ça se prépare un tel choc, Simon Rubin.
Toute cette semaine, les Bleus ont préparé frénétiquement ce rendez-vous écossais. L'Écosse, seule nation à avoir battu la France en 2020, c'était l'hiver dernier pendant le tournoi des 6 nations, une défaite qui avait privé les Bleus du grand chelem. Arthur Vincent ne le cache pas, il y a de la revanche dans l'air.
Il faut qu'on apprenne, il faut qu'on continue à progresser. Je pense que ça va être aussi le mot d'ordre cette semaine de pouvoir rebondir sur ce match-là. C'est un peu la même configuration que l'année dernière, entre guillemets, avec... après 2 victoires, donc à nous de bien se préparer, d'apprendre des erreurs entre guillemets du passé pour pouvoir progresser, montrer un bon visage.
Et puis les Bleus ont faim, eux qui ont été privés de match la semaine passée en raison de la situation sanitaire. De quoi faire bouillonner un peu plus Dylan Cretin, le troisième ligne.
Là on a qu'une envie, c'est de repartir, de faire cette semaine et de jouer ce week-end. Là aller en Écosse, ça va être cool pour se juger, surtout que voilà, c'est une belle équipe d'Écosse face à nous, donc il y a gros défi. Ouais.
Et les Bleus partiront favoris avec un groupe toujours en construction qui mélange les habituel cadre et des joueurs souvent remplaçants comme Mathieu Jalibert, 22 ans, qui sera à l'ouverture cet après-midi.
Et puis, belle moisson de médailles pour l'équipe de France au championnat d'Europe de judo à Prague. 8 médailles, dont 5 en or. 8 médailles, dont 7 pour l'équipe féminine. Une seule pour les hommes, en l'absence de Teddy Riner. La dernière médaille d'or, c'est la jeune Romane Dicko qui l'a décrochée hier.
Je suis vraiment contente. Je crois que c'est un record en plus, donc c'est vraiment super cool. Et je pense qu'on a une très très belle équipe et ça en dit long sur tout le travail qu'on fait et surtout ce qu'on fait à l'entraînement tous les jours. C'est super gratifiant, je pense aussi, de savoir que malgré tout ce qui s'est passé, malgré ces longs mois d'arrêt, on peut reprendre présence sur les grands rendez-vous. Les Europes, c'est pas du tout une fin, c'est le début de la nouvelle saison post-report des Jeux. Donc on continue de plus belle pour essayer d'avoir de nouvelles médailles l'année prochaine.
Voilà l'enthousiasme qui fait plaisir à entendre de Romane Dicko avec Axel May en tennis, place à la relève. Djokovic et Nadal éliminés au Masters de Londres. La finale va opposer Medvedev à Thiem. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce dimanche.
Pour une installation soignée de vos fenêtres, portes et volets, faites confiance à Arcade et Baie, produit de fabrication française. Arcade et Baie vous présente la météo.
Et c'est donc un temps froid, mais pourtant avec du soleil sur une grande moitié sud, Valérie Darmon.
Absolument Fabienne, sur une petite moitié nord, effectivement, point de soleil, les nuages dominent, le ciel est un tout petit peu plus variable des Pays de la Loire au bassin parisien et à l'Alsace. Sur les régions bordant la Manche, le ciel est couvert, quelques pluies faibles circulent, donc près des côtes, notamment sur le Pas-de-Calais. Et des trouées ensoleillées commencent à apparaître en Bretagne et en Normandie, mais les brouillards vont revenir en soirée. Au sud de la Loire, le temps est sec et lumineux, très ensoleillé. Les maximales varient entre 7 et 11 degrés du Grand Est à Rhône-Alpes, 10 à 14 de la Manche au Massif central et 13 à 17 du Sud-Ouest à la Côte d'Azur.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
À suivre, drôle de période de transition aux États-Unis. Donald Trump qui ne reconnaît toujours pas sa défaite des programmes d'aide économique mis à l'arrêt. La directrice des services généraux qui refuse toujours de signer la lettre qui débloquerait des fonds pour que l'équipe Biden commence à préparer son arrivée à la Maison-Blanche. Mais qu'est-ce qui se joue durant cette période de plus de 2 mois alors que Donald Trump garde tous les pouvoirs? Que faut-il redouter? Avec nous en direct dans un instant depuis Washington, Robert Mallet, ancien conseiller de Bill Clinton et de Barack Obama sur les dossiers internationaux, désormais à la tête de l'ONG International Crisis Group.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Fabienne Lemoyle.
Et je vous le disais, drôle de période de transition aux États-Unis. Un président sortant qui refuse toujours sa défaite à coups de tweets où il dénonce la fraude électorale, qui semble même délaisser les affaires de l'État en allant jouer au golf, mais qui pour autant ne permet pas à l'équipe de Joe Biden de prendre ses marques et qui garde les pleins pouvoirs, notamment en matière de politique étrangère. Pour comprendre ce qui se joue en ce moment, s'il faut s'en inquiéter, je reçois un observateur éclairé des rouages de l'administration américaine, ancien conseiller de Bill Clinton et de Barack Obama pour les dossiers internationaux, notamment au Proche-Orient, désormais à la tête de l'ONG International Crisis Group, spécialisée dans la résolution des conflits. Bonjour Robert Mallet.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous en direct depuis Washington, où le jour se lève à peine. Je disais observateur éclairé, car vous avez vécu 2 transitions, notamment celle entre Barack Obama et Donald Trump. Déjà, dites-nous, qu'est-ce qui se joue dans cette période qui, pour nous Français, paraît tellement longue, presque 2 mois avant l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, quand en France, c'est à peine quelques jours?
Oui, d'abord, je veux dire que mes expériences passées ne m'aideront sans doute pas cette fois-ci, parce que la transition est tout à fait inhabituelle. Mais comme vous dites, il y a 2 particularités. D'abord, c'est la longueur du temps. Et apparemment, ça remonte à l'époque où on ne pouvait pas se déplacer en voiture, donc c'était par chevaux que la nouvelle administration devait venir. Mais l'autre explication ou l'autre fait notable, c'est que il y a énormément de nominations politiques. Il y a 4000 personnes qui doivent changer de poste à partir du 21 janvier. Donc ça prend beaucoup de temps. Et il y a des gens nouveaux qui viennent, qui ne connaissent pas bien les dossiers ou qui ne connaissent certainement pas les dossiers secrets, les dossiers confidentiels. Donc pendant cette période de plus de 2 mois, a priori, ce qui devrait se passer en principe, c'est une coordination entre l'équipe sortante et l'équipe qui rentre. Donc pour faire ce passage de bâton entre président, mais aussi entre équipe. Et comme je l'ai dit, comparé à la France par exemple, vous avez 4000 personnes qui viennent, qui doivent remplacer ceux qui ont été nommés par le président sortant. Donc c'est tout un appareil de transition qui doit se mettre en place. Je pense que c'est assez unique. Je ne connais pas d'autres pays où il y a une transition aussi longue et avec un changement de personnel aussi important.
Donc on comprend qu'il faut du temps, sauf que là tout est bloqué. On va prendre juste un exemple. Cette signature que ne veut pas apposer une femme, alors elle s'appelle Emily Murphy, c'est la patronne de l'administration des services généraux. Du coup, ça bloque les fonds pour que l'équipe Biden se mette en place.
Oui, dans un sens, ça c'est le moins des problèmes parce que l'équipe Biden a pu récolter d'autres fonds. Mais ce qui n'est pas en train de se passer, c'est justement cette coordination entre équipes. J'avais assisté, donc il y a 4 ans, j'étais membre de l'administration Obama. À cette période, nous rencontrions assez régulièrement les membres de l'équipe Trump pour parler des dossiers du Moyen-Orient, ceux dont j'étais en charge. Mais ça se passait à travers toutes les administrations. On leur passait des papiers, on leur disait ce qui s'était passé, ce qui n'avait pas été public. Ils pouvaient être d'accord avec ce qu'on avait fait ou non, mais en tout cas, il y avait une mesure d'une certaine coordination. Or là, tout est bloqué puisque le président ne reconnaît pas son successeur.
Justement, dans une récente tribune au Monde, vous parliez de semaines longues, mouvementées, à haut risque. Qu'est-ce que vous redoutez alors qu'il y a, on l'a bien compris à travers ce que vous nous dites, des dossiers très sensibles, hein, je pense au nucléaire iranien, la présence des troupes américaines en Afghanistan, et que pour l'instant, Donald Trump, c'est lui qui garde le pouvoir.
Je ne suis pas devin, mais je dois dire que dans les deux semaines à peu près qui sont déroulées depuis l'article, presque tout ce que j'avais craint ou prévu s'est passé, c'est-à-dire que le président Trump a utilisé les pouvoirs qui sont légitimes. Il n'y a rien d'illégitime. Ce qui est illégitime, c'est sa non-reconnaissance de son successeur. Mais il a les pleins pouvoirs. Mais il les a utilisés d'une manière sans précédent pour savonner la planche à son successeur. Donc, il a, par exemple, il impose des sanctions hebdomadaires contre l'Iran pour compliquer la tâche de Joe Biden pour renouer les liens diplomatiques avec Téhéran. Il a pris une série de mesures vis-à-vis d'Israël, cette dernière semaine, pour reconnaître de facto la souveraineté israélienne sur les territoires occupés. Il a accéléré le retrait des troupes américaines en Afghanistan. Et il nous reste encore 2 mois, donc je ne sais pas comment il complétera la liste. Mais nous voyons donc toute une série de mesures qui sont prises pour consolider l'héritage de Trump, pour compliquer la tâche de Joe Biden, et puis aussi pour commencer déjà la campagne électorale de 2024, une élection qui ne reconnaît pas une campagne pour l'élection précédente qui commence déjà.
Une élection qui ne reconnaît pas, et d'ailleurs, j'ai envie de dire, un nouveau coup de pression, là cette fois c'est sur les grands électeurs, puisqu'il tente une autre stratégie, avec l'idée qu'il pourrait choisir les grands électeurs qui voteraient pour lui et non pas pour Joe Biden. On pense à ces élus qu'il a reçus du Michigan.
Oui, là pour le coup je suis moins inquiet. J'aurais été inquiet si l'élection s'était tenue à un seul État, parce que là la pression aurait été extraordinaire sur les électeurs de cet État pour essayer de faire en sorte qu'ils ne reconnaissent pas le vote populaire. Là, il lui faudrait au moins tourner la veste pour 3 États. De plus en plus d'électeurs de ces États disent qu'ils doivent se conformer au vote populaire. Donc, c'était un scénario que beaucoup d'experts avaient craint, mais seulement dans l'éventualité d'une victoire très, très étriquée de Joe Biden. Or là, heureusement, je dois dire, pour la stabilité du pays, au moins, ce n'est pas le cas.
Robert Mallet, on voit aussi Donald Trump qui a limogé, entre guillemets, à tour de bras le chef du Pentagone, le responsable de la sécurité des élections. Ça témoigne de quoi? C'est la politique de la terre brûlée, comme vous l'écriviez aussi?
Écoutez, là, dans un sens, il y a un point d'interrogation. Est-ce que c'est simplement par esprit vindicatif? Il veut se débarrasser de ceux qui ne lui ont pas obéi? Est-ce que c'est parce qu'il veut préparer des choses dans les 2 mois qui viennent et qu'il a besoin d'hommes et de femmes qui lui sont tout à fait loyaux? Est-ce que c'est parce qu'il veut se débarrasser de dossiers compromettants? Vraiment, là, on peut spéculer. Avec Trump, tout est possible. C'est peut-être l'explication la plus simple, c'est qu'il veut se venger et humilier des gens qui lui ont à peu près parfois tenu tête. Et dans le cas du chef du Pentagone, c'est pas comme s'il lui avait tenu tête de façon très, très... forte, mais apparemment, il voulait des hommes de main pour faire ce qu'il peut faire encore dans les 2 mois qui viennent.
Je le disais, Robert Mallet, vous avez connu 2 transitions, hein, celle entre Bill Clinton et George Bush, et puis celle entre Barack Obama et Donald Trump. On a vu qu'il y avait des discussions. Là, vous avez vraiment le sentiment que c'est du jamais vu. On met vraiment des bâtons dans les roues à la nouvelle administration qui va arriver en janvier.
Ce qui est vrai, c'est, et dans les 2 administrations auxquelles j'ai participé, il est vrai que les présidents prennent des décisions dans cette période un peu morte d'entre 2 administrations qui sont contraires à la volonté de l'administration qui doit suivre. Ça arrive. Mais j'ai jamais vu à ce point-là, et surtout avec ce veste sans précédent, de ne pas reconnaître qu'il a perdu les élections et qu'il doit donc préparer le terrain pour son successeur. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est vrai qu'en l'an 2000, dans la transition entre les présidents Clinton et Bush, à laquelle j'avais assisté également en tant qu'acteur, l'élection n'a pas été déterminée avant décembre. Mais ça, c'était à cause
du recomptage
d'une véritable
Floride.
Question électorale qui a été résolue par la Cour suprême. Mais pendant ce temps-là, le président Clinton n'agissait pas comme s'il devait barrer la route au président élu Bush. Or là, ce qui se passe, c'est un président qui prend des mesures à tour de bras. On est en train de voir vraiment une flopée de mesures, comme s'il pensait encore être président pendant 4 ans, alors que, évidemment, la raison principale, c'est qu'il sait qu'il est sur le départ.
Et comment vous l'expliquez?
Je l'explique par un président qui ne peut pas accepter la défaite. Dans le cas du président Trump, c'est quelque chose qui ne lui peut pas lui rentrer dans l'esprit et qui, encore une fois, prépare, non pas, c'est pas, il n'est pas certain que lui-même sera candidat en 2024, mais il veut faire accepter la thèse, en tout cas parmi ceux qui lui ont voté pour lui, qu'il n'a jamais perdu, que Biden n'est pas légitimement élu, et donc que les 4 années qui vont passer, qui vont se dérouler devant nous, seront des années où il faudra se battre pour reprendre la présidence légitime qui lui a été à lui ou à ses amis, à ses collègues, arrachée de façon illégitime. Donc c'est toute une nouvelle narrative qui s'installe d'une présidence illégitime aux yeux de millions d'Américains et avec un président qui devrait être à la Maison-Blanche et qui pourra être au centre de l'actualité, au centre de l'attention, ce qui pour quelqu'un, pour Trump, est primordial. Il ne quittera pas la scène politique, ni aujourd'hui, ni demain. Il entend rester au centre des affaires.
Merci beaucoup Robert Malley. Je rappelle, ancien conseiller de Bill Clinton et de Barack Obama pour les dossiers internationaux, d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1 et d'avoir partagé avec nous votre expérience sur ce qui se passe et ce qui se joue en ce moment aux États-Unis. Et au plaisir de vous accueillir de nouveau pour évoquer les gros dossiers qui attendent Joe Biden sur la scène internationale. Merci beaucoup. Et puis Merci. Vous le savez, on poursuit cette tranche d'information à 13h en ouvrant les carnets du monde avec Sophie Larmoyer. Bonjour Sophie, au programme aujourd'hui.
Bonjour Fabienne. Alors nous, dans les carnets, ce sont les nouvelles habitudes de vie des Chinois que l'on va observer. En particulier, une tendance qui se développe chez la jeune génération, chez les filles surtout, c'est le célibat. Ça va complètement à l'encontre des traditions qui veulent qu'on se marie avant 30 ans. Et c'est surtout source d'une grosse inquiétude pour Pékin, qui voudrait plutôt que les Chinois fassent plus de bébés.
Merci Sophie, à tout de suite. Europe 1.